Les petites causeries du numérique, saison 2.
Bienvenue dans les petites causeries du numérique, saison 2. Un podcast proposé par l'Open et animé par un groupe de psychologues et autres experts passionnés de numérique qui vous incite à la réflexion autour de la parentalité et de l'éducation numérique.
Épisode 7, quand les influenceurs s'invitent à la maison.
La grande causerie. Thomas Romer, expert en protection de l'enfance dans les espaces numériques, reçoit un ou plusieurs invités pour débattre d'un sujet en lien avec l'éducation numérique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande causerie. Grande causerie qui aujourd'hui va traiter du monde de l'influence et notamment des enfants qui sont parfois utilisés dans cet univers. Et c'est un sujet qu'on connaît bien à l'Open puisque on s'y est intéressé depuis de nombreuses années. Il y a 6 ans, nous nous étions intéressés au phénomène de l'unboxing et plus largement à la présence des enfants sur les réseaux sociaux, qu'ils soient devant ou derrière l'écran. Et évidemment, c'est un sujet qui intrigue de nombreux parents, qui les inquiète parfois, mais qu'on le veuille ou non, ces influenceurs sont désormais les égéries d'une génération. Alors pourquoi les adolescents adorent-ils les influenceurs? Les influenceurs ont-ils vraiment de l'influence sur les adolescents? Comment consomment-ils leur contenu? Pour répondre à ces questions, nous avons en plateau Jeanne. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Qui est lycéenne et qui a presque 17 ans. Et comme de nombreux jeunes de son âge, utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et on s'intéressera bien sûr aussi en deuxième partie à ses parents, ses familles qui créent du contenu autour de leurs enfants et de leur vie familiale. Comment allier parentalité et influence? Est-il possible de créer du contenu avec ses enfants en respectant leur développement et leur consentement? Est-il possible d'avoir des pratiques éthiques quand les enfants sont au cœur du business? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous accueillons Aurélie, qui est plus connue sur les réseaux sous le pseudo de Madame Flouch. Salut Aurélie.
Bonjour.
Et qui cumule plus de 150 000 followers sur l'ensemble de ses réseaux. Et Aurélie a l'originalité aussi d'être à la tête d'une agence d'influence qui s'appelle Just Go Agency et qui gère de nombreux talents liés à la famille et à la parentalité. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par toi, Jeanne, si tu le veux bien. Et Jeanne, ce que je voulais d'abord te poser comme question, c'est à partir de quel âge as-tu commencé à regarder et à suivre des influenceurs? Sur quel réseau ça se passait? Et puis également, est-ce que tu y vas souvent?
Alors, moi, ça doit faire 3-4 ans que je suis des influenceurs. J'ai commencé avec Instagram. Après, il y a eu TikTok, la vague de TikTok et encore maintenant. Et je dois y aller à peu près un peu tous les jours.
D'accord.
Un peu tous les soirs quand je rentre du lycée et tout ça.
Et justement, chez ces influenceurs, qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi est-ce que tu les suis? Est-ce que notamment, il y en a certains qui t'ont déjà donné envie d'acheter des choses, de te rendre dans des lieux, etc.?
Ce qui me plaît, oui, souvent, c'est les voyages, les vlogs, tout ça. Ouais. Par exemple, avec Léna Situation, j'aime beaucoup parce que... Par exemple, avec les vlogs d'août, on voit, elle filme tout un mois. Et donc, tous les jours, on voit un peu sa vie. Et j'aime bien quand il y a ce côté vrai, qu'on voit la vie des gens. Et ça m'influence beaucoup. Parce que, par exemple, il y a énormément de choses que j'ai eu envie d'acheter parce que c'était à la mode sur les réseaux.
D'accord. Et c'est un sujet dont tu parles avec... Vous en parlez entre amis, entre...
Oui, beaucoup. On a beaucoup de discussions à propos des influenceurs parce que parfois il y a ce qu'on appelle les refs, les références. C'est quand on dit t'as la ref, ça veut dire t'as vu cette vidéo, tu sais de qui ça parle, de quoi ça parle.
Ok, et tu suis des influenceurs plutôt, alors tu nous as parlé de gens qui présentent, t'as parlé de Léna Situation qu'on présente plus, qui est très connue, mais tu suis aussi, tu m'as raconté que tu en suivais tout un tas d'autres, et qu'est-ce qui te plaît le plus en fait chez eux?
Ce qui me plaît le plus, c'est quand ils donnent des conseils souvent dans la vie, quand on traverse des moments difficiles, et même quand ils conseillent des endroits où aller, des choses à voir, même des expos. Enfin, j'aime bien voir des conseils, voilà.
Avoir des conseils un peu sur la vie de tous les jours, et
oui.
Ça t'aide à réfléchir.
Ouais, à peu près à propos de tout.
Et c'est un sujet dont tu parles avec tes parents, ou pas du tout?
Des influenceurs?
Oui.
Oui. Je leur en parle pas mal, mais j'essaye de pas leur en parler dans l'excès parce que j'ai pas envie non plus que ce soit trop, qu'ils pensent que je pense qu'à ça, quoi.
Alors, tu nous disais que tu allais sur plusieurs plateformes. Et en préparant notre échange, tu m'as parlé de TikTok, en me disant également que tu faisais une différence un peu entre TikTok et les autres plateformes. Tu peux un peu nous expliquer ?
Pour moi, TikTok, c'est un peu un mix des différentes plateformes parce que sur Instagram, par exemple, ils ont rajouté les Reels pour un peu imiter TikTok, à mon avis. Mais TikTok, c'est que des vidéos, puis il y a les messages aussi, il y a les stories. Moi, je préfère aller sur TikTok personnellement parce que j'ai l'impression que je peux faire plus de choses et que je m'épuise jamais. Ça m'épuise jamais d'aller sur TikTok.
D'accord. Et tu m'as aussi parlé de l'algorithme de TikTok. C'est un sujet dont on parle beaucoup, qui inquiète beaucoup les adultes, même les pouvoirs publics. Est-ce que tu as remarqué des choses par rapport justement au mode de fonctionnement de TikTok et d'autres réseaux sociaux?
Oui, moi souvent je me dis que quand même l'algorithme il est très puissant parce que ça met exactement ce que j'ai envie de voir.
D'accord.
Ma For You page, donc les pour toi, c'est vraiment pile ce que j'ai envie de voir. Quand je like une vidéo par exemple sur des tortues, après je vais avoir 100 tortues dans ma page.
Et c'est pas un peu dérangeant ça justement? Est-ce que t'as pas l'impression d'être un peu enfermé du coup?
Bah non, puisque c'est des choses que j'aime, puisque je les like, donc en soi, c'est pour ça que je passe plus de temps dessus.
Ok. Et est-ce que par exemple, t'as déjà vu un film, une série, lu un livre qui avait été recommandé par quelqu'un que tu suis?
Oui. Oui, bah parfois je vois des influenceurs qui parlent de nouvelles séries qui sont sorties, je vais les voir et puis au bout d'un épisode, je me fais une idée dessus, mais souvent j'aime bien. Et des livres aussi. Je vois des extraits, des influenceurs qui parlent d'extraits de livres, des moments beaux dans des livres. Et je me dis, je vais aller jeter un coup d'œil.
Ok. Et justement, parmi les influenceurs que tu suis depuis de nombreuses années, et qui quelque part occupent un petit peu beaucoup de temps dans ton quotidien, en tout cas c'est ce que diraient certainement tes parents, est-ce que tu vois que ces influenceurs, t'as développé une espèce d'attachement, de proximité avec eux? Est-ce que ça, tu les vois comment? Un peu comme des potes?
Oui. Quand je vois les mêmes influenceurs un peu tous les jours, ceux qui reviennent sur mes réseaux, le mot suivre, ça prend un peu tout son sens parce que je me dis oui, je les suis vraiment puisque au final, je vois tout leur quotidien et puis ça m'apporte beaucoup de choses.
Et par rapport à justement des petits moments que traversent tous les ados, qui sont plus ou moins faciles, est-ce que tu sens que ça génère chez toi un peu des conseils, une forme de soutien? Est-ce qu'ils peuvent t'apporter des choses précises dans ton quotidien en fait?
Oui, parfois je vois des situations, je vis des situations et puis je vois que en fait, par exemple sur TikTok, il y a beaucoup d'autres personnes qui passent par là ou qui sont déjà passées par là. Et puis je vais dans les commentaires et là je vois que tout le monde en parle et donne des conseils et tout ça. Et puis même il y a des influenceurs qui ont des comptes seulement pour donner des conseils et qui ont percé un peu à base de ça.
Et donc ça t'apporte quelque chose en fait?
Oui, parce que je regarde les vidéos, je vois des conseils et puis je me sens pas seule puisque je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu.
Ok. Alors justement, Aurélie, vous qui partagez, on peut se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, donc on va pas faire semblant. Toi qui partages souvent ta vie familiale, notamment avec tes enfants, ton mari, partagez aussi un peu de votre intimité quelque part, de votre vie quotidienne avec ta communauté. Est-ce que tu ressens aussi cette proximité qu'évoquait Jeanne avec ta communauté et comment est-ce que justement tu fais un peu pour l'entretenir cette proximité?
Alors moi, c'est assez paradoxal parce que autant je peux peut-être l'entretenir, mais j'entretiens aussi le fait d'éduquer les gens en se rendant compte que Instagram n'est pas la réalité et qu'ils ne voient pas ma vie. Ils
D'accord.
ont une fenêtre, je leur dis toujours, vous avez une petite fenêtre sur ma vie, mais une petite fenêtre, c'est pas mon quotidien. Et je rigole parce que je le dis aussi à mon entourage et surtout aux ados de mon entourage quand je les vois parler de créateurs de contenu. Je leur dis, tu sais que c'est mon métier et que tu ne vois pas un dixième de leur journée au final et que quand tu mets toutes leurs stories bout à bout, ça fait 5 minutes. 5 minutes, ça fait pas 24 heures.
Donc t'es un peu en train de nous dire que en fait ce que livrent un peu les influenceurs, c'est pas si, enfin c'est une toute petite fenêtre et ça vient un peu aussi dire à Jeanne que c'est pas non plus forcément la vraie vie, c'est ça ?
Exactement, et c'est vraiment ce que je rappelle même moi à mes abonnés, et qui pourtant, moi, mes abonnés, c'est du 25-35-35 plus, hein, donc c'est pas l'âge de Jeanne pour la plupart, mais on a tous facilement envie de croire qu'on sait tout sur les gens qu'on suit, alors que pas du tout, puisque moi je suis des gens et je suis suivie, et je vois bien ce que je partage par rapport à ce que les gens ont comme vision de moi. Des fois, c'est pas du tout les mêmes choses, en fait. Et c'est pour ça, c'est vraiment de l'alerte sur ce côté-là.
Et justement, c'est assez intéressant parce que toi, tu t'es lancé un peu dans un contexte particulier, dans cet univers de l'influence. T'es maman très tôt. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux ? Parce que ça rejoint un peu ce que nous expliquait Jeanne,
exactement,
en fait.
Exactement, oui. Moi, je suis tombée enceinte à 23 ans. Je sortais de l'école. Et ben évidemment, mes copines à 23 ans, ben elles n'étaient pas enceintes. Et du coup, je cherchais un peu des conseils, des envies de partager mon expérience. Et bon, ben, à part avec les tantes et les cousines de mon mari qui étaient beaucoup plus vieilles que moi, j'avais pas. Et je commençais sur Twitter à l'époque. Et j'ai vu que ben, ça amenait du monde, etc. Après, j'ai lancé mon blog. Et c'est là que je me suis retrouvée avec pas mal de monde qui me suivait et qui me partageait leurs expériences. Et surtout qui déculpabilisaient quand je partageais la mienne. Parce que moi, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé être enceinte. Et ben, dans la famille de mon mari, tout le monde adore être enceinte. Alors du coup, je me sentais un peu seule. Et dans la mienne, il n'y avait pas trop de mots non plus, quoi. Et c'est comme ça que j'ai réussi à fédérer une communauté en leur disant, bah, moi, j'aime pas ça. Et puis, il y avait plein de filles qui m'écrivaient, qui vont me dire, oh, merci, merci, moi aussi, j'aime pas ça. Et j'ai l'impression d'être la seule. C'est horrible. Enfin, et voilà. Et après, bah, c'était de la puériculture, partagé sur du siège auto, de la prévention. Et on se fait un groupe de copines virtuelles. Pour certaines, moi, c'est mes amis maintenant, dans la vie, 10 ans après, parce que c'était il y a 10 ans. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidée, moi, les réseaux sociaux, mine de rien, humainement. Et c'est pour ça que je comprends l'attachement. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses, du recul sur la réalité.
Alors justement, tu viens de nous parler de la manière dont tu gères un peu tes publications familiales, en nous expliquant que c'était une toute petite fenêtre de ta vie. Mais tu as aussi la particularité d'être à la tête d'une agence, oui, de talent, que tu as créée il y a plusieurs années, qui en regroupe un certain nombre, et qui ont la spécificité de tous créer des contenus autour de la parentalité et de la famille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors quand qui dit famille dit forcément enfant, qui apparaissent souvent à l'image dans les publications. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la place des enfants au sein de ce business, comment ça se passe et quelles sont aussi les exigences des marques? Est-ce que tu arrives à répondre aux exigences de tes clients en respectant un petit peu la vie des enfants? Comment tout ça se passe?
Alors, donc, du coup, moi, j'ai une agence depuis 5 ans, spécialisée dans la représentation de créateurs de contenu famille, mais ils ne font pas que partager le quotidien de leurs enfants. Pour certains, c'est vraiment une notre toute petite fenêtre dessus. Mais en fait, c'est tous des lifestyles, comme on dit, avec tous les sujets possibles. Mais ils ont la particularité d'avoir des enfants aussi. Donc du coup, ça nous offre une fenêtre supplémentaire pour les collaborations et pour les sujets de poste. Nous, on a la particularité d'avoir certains qui ont plus ou moins beaucoup d'enfants. Donc on a 70 enfants inscrits dans notre agence. Mais on n'est pas agent des enfants, on est uniquement agent des parents. Et quand les enfants doivent apparaître sur des contenus commerciaux, en l'occurrence, c'est du contrat de mannequin. Donc on fait appel à une agence de mannequin et un contrat de mise à disposition. Et à ce moment-là, l'enfant participe à une collaboration commerciale. Donc au même titre que demain, il ferait une pub à la télévision, il aura un contrat. Et donc il aura des sous bloqués à la caisse de dépôt jusque ses 18 ans, des fiches de paye, des justificatifs. Donc pour que tout soit clair... Et que bah, plus tard, l'enfant à 18 ans soit bien content de se retrouver avec un petit pécule pour payer ce qu'il a envie de payer.
Oui, en fin de compte, c'est exactement ce qui se passe depuis des années dans le monde du mannequinat, la publicité, tous les enfants qui jouent dans des films, des séries.
Exactement.
Et en France, est-ce que tu as l'impression que tu es un peu unique dans cet univers-là ou les choses commencent un peu à bouger? Parce que nous, ça fait partie des combats à l'Open qu'on a essayé de mener. On a travaillé avec le député Bruno Studer pour faire passer la loi enfant-influenceur en octobre 2020. Est-ce que tu vois des changements qui commencent un petit peu à s'opérer ou...
Oui, évidemment, et heureusement. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans, du coup, de monter mon agence. Donc, ça fait 10 ans que je suis créatrice de contenu, 5 ans que je suis gérante de mon agence. Au tout début, c'était très compliqué. On a perdu des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on voulait des contrats enfants et qu'à l'époque, c'était pas dans les mœurs et qu'on se faisait vite refouler. Mais à force d'éducation, et puis on n'est pas les seuls acteurs non plus à forcer, et les lois qui passent au fur et à mesure aussi, on arrive maintenant à faire valoir les contrats enfants. Il y a encore quelques petits filous. Mais avant, on comptait sur les doigts d'une main les enfants protégés avec un contrat. Aujourd'hui, on arrive à compter plutôt les enfants qui ne le sont pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de positif.
Bien sûr. Et comment tu vois l'avenir par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'on va réussir vraiment à embarquer tout le monde dans cette logique-là? Parce que l'idée n'est évidemment pas d'interdire tous ces univers, même si c'est vrai que la mode est un peu à taper sur les influenceurs, mais plutôt de protéger les enfants. Toi, tu l'as fait dès le début et tu penses qu'on va réussir à finalement convaincre tout le monde ou ça va être encore un petit peu, il y aura toujours des résistants?
Personnellement, j'espère. Je n'ai pas de vue sur l'avenir. J'aimerais bien que M. Studer me rappelle et qu'on en parle encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'on va vers le positif, même si c'est long, c'est difficile. Moi, je me bats chaque jour pour ça. Et je trouve que c'est une super expérience aussi pour nos enfants. On n'en parle pas assez, mais moi, mes enfants adorent ça. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais pour eux à partir du moment où c'est bien cadré.
Et comment tu gères leur consentement, justement, parce qu'ils ont grandi depuis le temps que tu fais ça?
Oui.
Vous en parlez, vous décidez en famille, t'en parles
Exactement.
Avec eux, comment ça se passe?
Alors moi, aujourd'hui, il faut savoir qu'ils ont 8 et 10 ans. Alors évidemment, c'est toujours un peu touchy de parler de consentement, parce qu'à 8 et 10 ans, c'est toujours assez compliqué.
Surtout mais quand c'est papa et maman
voilà,
qui réclament.
C'est papa et maman qui leur proposent. Hum. Et eux, ils disposent, en l'occurrence, quand on dit à des enfants de 8 et 10 ans, moi c'est un cas concret qui va se passer samedi, est-ce que tu veux faire une vidéo où tu vas jouer avec les tout nouveaux jouets de Jurassic Park? Ils sont super contents, en fait. Et c'est quelque chose où il n'y a pas de brief pour l'enfant. Nous, on prévient aussi la marque. À partir du moment où vous travaillez avec des enfants, il faut être conscient que vous ne pouvez pas leur demander d'être des acteurs. Donc,
bien
ils
sûr.
Font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pris le parti aussi de prendre un vidéaste pour ne pas être celle qui les filme, pouvoir les accompagner dans ce moment de jeu. Donc du coup, ils vivent juste un bon moment parce que je fais attention aussi à eux et que j'en parle avec eux. Et par contre, si un jour ils me disent non, c'est non. Moi, ça m'est déjà arrivé que mes enfants ont demandé de ne pas apparaître sur une story. Bah, pas de souci, en fait. Ils sont capables de dire ce qu'ils veulent. Et je pense que plus ils grandissent, moins à titre personnel, moins ils apparaissent sur mes réseaux. Parce que plus ils grandissent, plus ça va impacter aussi leur vie avec leur copains, parce que petit à petit ils vont avoir tous des téléphones et que moi j'ai pas envie de leur porter préjudice, donc c'est pour ça que je fais très très attention à ce que je communique. Je donne rien sur leur santé, je donne rien sur notre maison, je partage une toute petite fenêtre et celle de mes enfants est encore plus petite que la mienne.
Donc ce qui est assez intéressant en fin de compte dans ce que tu nous dis, c'est par rapport à ce sujet qui fait souvent paniquer pas mal de parents. Je pense que tu diras pas le contraire, Jeanne.
Non.
Il est possible de mettre de l'éthique, de gagner sa vie en respectant la vie de ses enfants. Plus ils grandissent, évidemment, plus c'est facile d'en parler avec eux.
Oui.
Et puis de les préserver. Parce que c'est vrai que nous, c'est un sujet qui nous préoccupe à l'Open. On se dit, on sait que on a Jeanne sur le plateau. Tous les ados utilisent les réseaux sociaux. Et nous, la question qu'on se pose, c'est quand les enfants vont grandir avec toutes ces publis, toutes ces photos, ces vidéos qui sont extrêmement partagées, est-ce que ça ne va pas impacter justement les futurs adolescents qu'ils seront dans leur construction, parce que forcément, à terme, utilisateurs de ces outils aussi, pour se socialiser et devenir un ado comme Jeanne. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui nous préoccupe. Et on se dit qu'en effet, il y a peut-être des choses à réfléchir et en effet faire de la prévention, notamment vers les familles, vers ceux qui nous écoutent en fait.
Ça c'est sûr. Après moi-même, je suis maman en fait. C'est une petite fille de 10 ans qui me réclame déjà un téléphone et qui se tape un gros stop.
Mais ça c'est normal, 10 ans réclamer un téléphone, c'est normal.
Mais évidemment, mais du coup moi-même j'ai peur pour ma fille et j'en parle beaucoup avec elle. En fait même à 10 ans, je lui dis tu vois bien que maman c'est son métier. Et qu'elle partage ce qu'elle a envie de partager. Il faut faire attention quand tu vois des gens, parce qu'elle a déjà été chez mamie, regardé la tablette, vu Swan et Neo ou d'autres personnes, et lui expliquer que tu vois, c'est de la mise en scène souvent aussi. Il faut te dire que c'est pas la réalité. C'est aussi de l'éducation pour nous, parents, à savoir. Parce que même ce qu'on regarde, des fois, on a vite l'impression que les mères parfaites, ça existe alors que non. Et expliquer aussi à nos enfants que plus tard, ils pourront se servir d'Instagram, etc. Moi, ça m'a servi, ça m'a sauvée.
Bien sûr.
Je me comprends, mais oui, moi ça m'a beaucoup aidé. Il faut savoir aussi se rendre compte, prendre le positif. Et quand il y a du négatif, ça ne sert à rien de se rendre mal pour des gens qu'on ne croisera pas dans la rue.
Exactement, un message positif.
Voilà.
Merci à toutes les deux. On approche déjà, ça passe très vite, de la fin de cette grande causerie. Et puis je souhaitais, on aime bien faire ça dans cette émission, poser une dernière question un peu en mode conseil. Aurélie, bon, il y a pas mal de parents qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil justement aux parents qui publient parfois un petit peu trop de photos, de vidéos de leurs enfants sur les réseaux? Pas forcément dans une démarche uniquement d'influence, mais juste comme ça, au débeauté, comme on dit. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit conseil?
Faites attention, ça paraît un peu bête. Moi-même, je le fais, mais je réfléchis toujours à qui regarde. Et est-ce que ça pourrait leur porter préjudice plus tard?
Voilà. Donc, parlez-en. Plus les enfants grandissent, discutez-en voilà. avec eux. Et puis, essayez de vous projeter sur plus tard quel réseau, dans quel contexte et ce qui pourrait se passer.
Et n'oubliez pas qu'à 18 ans, ils peuvent vous demander de tout supprimer. Vous serez obligé de le faire.
Pas bête, oui. C'est vrai. Merci. Jeanne, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu voudrais dire justement aux adultes qui nous écoutent et qui pensent que les ados font tous n'importe quoi en regardant ces influenceurs qui ne divulguent que des messages ridicules? Qu'est-ce que tu voudrais dire?
Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'ils se disent que si on fait ça et si on regarde ça, c'est qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs. Voilà.
Et qu'est-ce que t'aimerais, est-ce que tu penses que ça passe aussi par un peu plus de dialogue entre parents et enfants là-dessus, ou c'est pas facile d'en parler avec ses parents?
Non, je pense que c'est une très bonne idée, mais il faut aussi que les parents regardent les bons côtés et aillent voir les bonnes parties des réseaux sociaux.
Et ben, on terminera sur cette note très positive. Je rappelle juste, Aurélie, qu'on peut te retrouver sur tes comptes Instagram, TikTok, etc. Si tu veux rappeler tes pseudos.
Donc, mon compte personnel, c'est Madame Flouch. Et le compte de mon agence, c'est Just Go Agency.
Voilà, Just Go Agency, qui donc essaye de mettre un petit peu d'éthique, voire même beaucoup d'éthique dans cet univers. Et qui, visiblement, commence à contaminer tout le monde. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Eh bien, merci à toutes les deux. C'était très intéressant. Et bonne écoute. La rubrique suivante vous attend juste après.
Merci.
Bye bye.
Les actus. Arnaud Silla et Marion Azapéry, psychologues cliniciens, vous partagent leur top 5 des actualités fun et sérieuses du numérique.
Salut Marion.
Alors, puisque aujourd'hui on parle des influenceurs, est-ce que tu savais qu'il existait des lois pour encadrer cette pratique numérique? Moi perso, je pensais que c'était super simple, hop, tu choisis ton nom de scène, un pseudo qui claque, tu crées ton compte sur une appli et puis salut les copains, je vais vous parler de blablabli blablabla, enfin c'est parti. Mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Enfin, je crois qu'avant, enfin, à ton époque, ça devait être comme ça, mais aujourd'hui, ça a changé, quoi. En fait, il faut déclarer sur les vidéos si tu fais de la publicité pour un produit, une marque, enfin, etc. Alors, à ta décharge, c'est une loi qui est quand même toute récente, puisqu'elle date du 9 juin 2023, et elle précise le contexte. Cette loi, de ce que j'ai compris, elle vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Oui, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'elle apporte quand même de grands changements en vue de faciliter l'accès à Internet et à sécuriser les internautes.
Ouais, c'est surtout la pub, toujours en fait, la pub, hein.
Ouais. Ouais, concrètement, pour faire du placement de produit, il faut un statut, il faut un contrat avec une agence, et il faut impérativement déclarer l'intention commerciale des publications si l'influenceur reçoit une contrepartie en indiquant la mention « publicité » ou « collaboration commerciale ». Et puis aussi, l'influenceur, bah, il doit vérifier la réalité matérielle du produit qu'il présente, quoi. Il ne peut pas parler d'un truc qui est fictif. Il est donc responsable de la matérialité de ce qu'il présente. De la même manière, les produits vantés et les arguments qui les accompagnent doivent être vérifiables. À noter aussi qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il faut aussi préciser la mention « image virtuelle générée par IA ». Et oui, c'est quand même une question, quoi.
Ouais, je comprends. Puis en fait, t'as intérêt vraiment à respecter, parce que je viens de voir là en t'écoutant que les sanctions sont claires. 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende si les interdictions publicitaires ne sont pas respectées ou si un influenceur dissimule sa véritable intention commerciale.
Oui, par contre, je sais pas trop si depuis cette loi, il y a vraiment eu des sanctions prises.
Alors apparemment, si tu n'as pas vu les vidéos de Capucine Anav ou Poupette Kenza, dont les mentions limites transparentes ont été repérées par les internautes qui ont regardé, t'as sans doute quand même entendu parler de la polémique.
Alors pas vraiment, enfin c'est pas trop mon truc tout ça.
Ouais. En fait, en lisant à droite à gauche, on constate que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes enquête à partir des signalements qui sont faits par les internautes, donc les consommateurs des vidéos, des journalistes, en passant le plus souvent par une plateforme qui s'appelle Signal Conso. Et d'ailleurs, cette instance de régulation a récemment affiché la liste de 30 influenceurs en infraction, manifestement ceux qui n'ont pas respecté la loi. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir des sanctions financières, comme je l'ai dit, ils se font afficher, ce qui n'est pas vraiment top pour la réputation. C'est le principe, tu vois, du name and shame.
Ouais, c'est sûr que taper sur l'image, ça devrait avoir des répercussions. Et puis tiens, par exemple, là, je suis en train de regarder la vidéo de Joueur du Grenier sur Hogarth Legacy, et je vois bien le bandeau avec la déclaration qui est faite. Donc là, bon, il n'y a pas de souci, tout est en règle.
Ok, donc il y en a qui respectent, ça, c'est rassurant. En fait, aujourd'hui, avec ces lois, finalement, on voit que c'est quand même très encadré de faire des vidéos. Et ça me fait penser que j'entends souvent cette question, qu'est-ce qu'on fait avec les ados qui veulent aujourd'hui devenir influenceurs? Il faudrait peut-être les informer de ces lois aussi. Mais t'en penses quoi, toi, de ce métier-là? Est-ce qu'on peut proposer ça en orientation au collège à un ado? C'est sérieux comme projet professionnel?
Ouais. En fait, devenir influenceur, moi, je pense que c'est pas rien. C'est un vrai travail, tous les jours et tout. Ça veut dire que même si on n'a pas envie, il va falloir se lever pour créer du contenu, y réfléchir. En somme, je me dis qu'il y a quand même pas mal de contraintes qui sont pas évidentes, qui sont pas apparentes et qui, je sais pas trop, en fait, justement.
Hey, tiens, Arnaud, tu dis influenceur, créer du contenu. Tu sais ce que c'est la différence, justement, entre influenceur et créateur de contenu?
Ben non, justement, et j'en parlais avec des collègues pour qui ça n'était pas évident d'arriver à une définition claire.
Alors, tout comme les créateurs de contenu, effectivement, les influenceurs, ce sont des personnalités actives sur les réseaux sociaux. Mais être influenceur, c'est collaborer avec des marques, comme par exemple, tu connais forcément Léna Situation, qui est influenceuse, mode et lifestyle. Alors que créateur de contenu, c'est proposer un contenu original, un contenu unique sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu connais forcément Squeezy, qui est un créateur de contenu et de divertissement.
Oui, mais la frontière, elle est fine entre les deux, puisque influenceur, c'est aussi créer du contenu. Et un créateur de contenu peut aussi influencer son audience, non ?
Ouais, c'est vrai, mais pour le dire rapidement, en fait, on peut s'accorder pour dire que la principale différence entre créateur de contenu et influenceur, elle réside dans l'intention derrière la production de contenu.
Oui, alors vu comme ça, si je tente une analyse des différences entre les deux, je dirais qu'un créateur de contenu a pour objectif de créer du contenu engageant pour répondre aux attentes de sa communauté, l'informer, l'éduquer ou la divertir. Je dirais que c'est un type de profil que l'on suit principalement pour son contenu et moins pour sa personne. Et puis, il n'a pas forcément vocation de collaborer avec des marques, même si ça peut lui arriver.
Et oui. Tandis qu'un influenceur, il va vraiment construire toute son identité sur les réseaux sociaux, autour de qui il est, autour de ses goûts, autour de sa personnalité. Au fond, son objectif, quand il travaille avec des marques, c'est de mettre en avant leurs produits ou leurs services. Mais ce n'est qu'une partie de son activité qui, le reste du temps, est de produire du contenu, quelle qu'en soit la manière.
Ok. Merci pour ces précisions. Donc, être influenceur comme créateur de contenu, ça demande des qualités, comme tout emploi. Par exemple, des connaissances artistiques, techniques pour produire des photos, des vidéos, des capacités langagières et créatives pour écrire des textes, des compétences numériques pour savoir se servir le plus efficacement des réseaux sociaux. Il faut vraiment bien connaître leur fonctionnement et la façon de valoriser les contenus. Et puis, évidemment, avoir quelques connaissances commerciales pour pouvoir monétiser les audiences. Et puis, pour les influenceurs, surtout pour les mineurs, il faut des connaissances juridiques. Je crois d'ailleurs que la loi du 9 juin en précise les termes.
Ouais, quand même, ça fait pas mal de choses. Donc, c'est un vrai projet professionnel, hein. Mais ça me fait penser, si on remonte un peu dans le temps, à notre époque peut-être, c'était la même chose que le rêve de devenir footballeur ou chanteur. Hein. Et la réalité du métier, pour vraiment faire carrière, pour gagner sa vie, c'est pas juste montrer sa tête sur les réseaux, là.
Ouais, voilà, je pense que t'as tout compris. En fait, il y a vraiment tout un tas de choses à penser, à maîtriser. Et puis surtout, au départ, il faut quand même avoir envie de parler de quelque chose, avoir envie de partager avec les autres sur un sujet. Et un sujet, où on va amener des contenus qui sont novateurs, qui sont inédits, différents de ce qui existe déjà.
Ouais, c'est sûr que si t'es le 40e influenceur à répéter la même chose, c'est pas comme ça que tu vas percer. Moi, j'ai l'impression que ce qui marche, c'est beaucoup l'humour, et puis le fait de parler de soi, de s'engager, de s'impliquer. Je crois que c'est comme ça que le public se sent en confiance, non?
Oui, je suis d'accord aussi. Donc en fait, tu vois, on peut devenir influenceur, mais en fait, c'est un réel travail, avec des techniques à apprendre, quoi. Donc évidemment que tous les fans de Squeezie ou Michou ne feront pas carrière dans l'influence.
Ok, super. Merci Arnaud, je suis pareil pour Parcoursup maintenant. Mais justement, ça me fait penser à un autre truc. Est-ce que tu as lu le livre « Grandir informé » de Anne Cordier, qui est sociologue et puis qui est aussi experte à l'Open ?
Non, pas encore lu. Alors, il est en haut de la pile des livres à lire, mais je sais qu'elle fait quand même beaucoup de recherches sur les enfants et les ados pour comprendre leurs usages et leur rapport au numérique. Et puis souvent, moi je trouve qu'elle bouscule bien les préjugés qu'on a souvent, nous les adultes, donc j'écoute toujours avec attention.
En fait, Anne Cordier critique un peu la façon dont on considère l'information que doivent s'approprier les jeunes. Elle remarque qu'il faudrait absolument qu'ils s'informent sur l'actu politique, nationale, voire internationale.
Alors déjà, quand on a 15 ans, on essaie avant tout de s'informer sur notre propre actu adolescente. L'actu de notre corps, de nos potes. Alors l'actu nationale, internationale, bah c'est peut-être loin, non?
Ouais, t'as raison. Et en plus de savoir ce qu'ils devraient regarder, sur quoi ils devraient s'informer, en fait on attend d'eux une certaine manière de faire. Et encore une fois, on revient là à la presse papier. Il faudrait qu'ils lisent des informations sur les journaux écrits. Et puis on les culpabilise en leur disant que tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est forcément faux ou de mauvaises sources.
Ouais, c'est intéressant de remarquer ça. Donc je comprends, les ados, en fait, on veut leur imposer notre façon de faire, venant d'une autre génération.
Ouais, exactement, c'est ça. Et à ce propos, Anne Cordier explique qu'en fait, les ados, ils n'osent pas parler de ce qu'ils regardent par peur de mal faire. Donc, ils s'informent et ils n'osent pas dire ce qu'ils voient. Et donc, ils se taisent et ils disent qu'ils ne s'informent pas. Or, la sociologue Anne Cordier nous dit que c'est complètement faux.
Ils font quoi, alors ?
Elle dit qu'en réalité, ils s'informent tout le temps, mais que c'est souvent une activité qui n'est pas conscientisée. En quelque sorte, c'est pas se poser sur le canapé devant le JT le soir ou le matin au petit-déj avec le journal papier. C'est une activité qui est une activité en mobilité, donc en fait, sur une journée, ils passent beaucoup de temps à faire des points sur l'actu à travers des vidéos ou à travers des youtubeurs. Et elle nous explique aussi qu'ils peuvent, sur certains sujets, approfondir en regardant des vidéos qui parfois durent plus d'une heure sur des sujets vraiment pointus.
Ah génial! Eh bien j'en profite pour donner quelques influenceurs que j'aime bien pour l'info. Par exemple, Hugo Décrypte. Et puis Nota Bene, qui en plus d'être un geek de génie pour la vulgarisation historique, il nous aide à comprendre que l'actualité s'inscrit dans une histoire. Puis en plus, il est tourangeau, donc bon voilà. Et puis j'oublie pas Matt, de La Politique de Matt, qui nous a fait le plaisir de discuter avec toi pour la geekothèque de l'invité dans cet épisode.
Ouais, c'est vrai, super intéressant cet entretien. Bah écoute, super Arnaud, merci comme d'hab pour tous tes conseils, et puis à bientôt pour les prochaines actus.
Allez, salut.
J'irai geeker chez vous. Le principe, un psy, Arnaud Silla, s'invite chez vous pour jouer en famille aux jeux vidéo, mais aussi pour parler culture et usage du numérique à la maison.
En fait, pour nous, le jeu vidéo, c'était une espèce de jeu de société, mais sur écran, on va dire. En fait, on n'a jamais fait une distinction réelle entre le jeu de plateau et le jeu vidéo. Pour nous, ça fait partie du même plaisir.
En fait, oui, d'ailleurs, ce qu'on aime, c'est des jeux où on peut jouer à plusieurs.
Ça fait partie de la même démarche que le jeu de société. Et souvent, depuis qu'on est devenus parents, on a entendu beaucoup de parents qui opposent jeu de société et jeu vidéo. Et pour nous, ça n'a jamais été un débat, en fait. Donc effectivement, on avait arrêté de jouer. Et quand Shiona est née, qu'elle a commencé à grandir, de toute façon, déjà, il y avait ne serait-ce que les petits livres interactifs là, qui nous rendaient fous à jouer tout le temps les mêmes chansons. Hein.
C'est vrai que le numérique...
Continue, ça. Enfin, voilà, le numérique, il était là de base, même dans les jouets de bébé, on va dire, en fait. Et nous, elle avait des jouets comme ça, elle avait aussi des livres, des toutes petites, et puis des jeux de société, des toutes petites aussi, on a eu... En coopératif, là, les premiers jouets coopératifs, je crois qu'il y en avait un, c'était une mare où il fallait aller attraper des papillons avec un chat et c'était du coopératif. Mais après, du coup, elle a eu sa première console, c'était une VTech, là.
Ah oui, oui, oui.
Après, j'ai eu la DS.
Après, t'as eu la DS, voilà. Et la DS, autour de nous, on a vu que c'était assez accepté. C'est assez bizarre. Parce qu'en fait, on a constaté une espèce de cassure. C'est-à-dire, quand ils sont petits, ils ont 5 ans, 6 ans, ils ont la DS, y a pas de problème. Puis ils arrivent à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et là, d'un coup, les consoles, ça devient le grand ennemi à combattre. Nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Chez beaucoup de gens, quoi. Le jeu vidéo devient un point de tension à partir d'un certain âge, en fait.
Oui, à partir d'un certain âge.
Ce qu'a pas été le cas chez nous.
Non. Ce que je trouve génial, c'est quand il y a plusieurs ados qui jouent ensemble au même jeu, en fait.
Ah oui, quand ils viennent à la maison.
Comme même à regarder, je trouve que je trouve que c'est des moments de partage exceptionnels.
C'est génial.
Quoi. Donc ça, c'est...
Vous pensez à quoi
dans le genre soirée pyjama, où chez Ona, il y avait plusieurs copines qui arrivaient ici, et où nous, en général, quand c'est ça... La particularité de cette maison, c'est que tout ce qui est numérique se situe ici, au rez-de-chaussée.
Et un lieu ?
Dans les chambres, en fait, il n'y a pas... Bon, Fiona a une télé dans sa chambre, mais elle ne regarde jamais. Il n'y a pas d'ordinateur là-haut. Nous, on a des ordinateurs dans notre bureau, mais c'est pour le travail. Il arrive maintenant, comme elle est plus grande, par exemple, si elle reçoit ses grandes copines et qu'on est avec les parents en bas, qu'on leur laisse, on leur installe les ordinateurs pour jouer dans le bureau pour qu'elles soient tranquilles entre ados. Mais autrement, d'une manière générale, ça se passe ici, au rez-de-chaussée. Et donc, du coup, quand elles faisaient des soirées pyjama, nous, on leur dit, vous jouez à ce que vous voulez, vous faites... Enfin, voilà, c'est un moment de fête, on y va, on mangeait cool, plutôt pizza, hamburger, un machin. Et puis après, elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et là, forcément, nous, on passe ici, on est dans la pièce où elles sont. Et du coup, que ce soit à Minecraft, que ce soit à Fortnite, vous avez des fois joué à Among Us, je crois.
Mario Kart.
Et on passait. Et quand vous avez quatre filles et garçons qui sont dans la pièce en train de jouer comme ça, c'est énorme. C'est vraiment très vivant, en fait.
Ah, moi, c'est des grands souvenirs, ça. C'est...
Ouais. Et c'est là qu'on voit que ça ne les enferme pas. C'est au moment de Fortnite qu'on a commencé à se poser vraiment les premières questions sur le jeu vidéo. Jusque-là, il était plutôt naturellement dans notre vie, on va dire.
Oui.
Mais au moment de Fortnite, on commence à se poser des questions parce que c'est le jeu en ligne. Et puis parce qu'on a des parents... Il y a des camps, voilà. C'est le jeu qui divise.
Je ne sais pas s'il divise toujours, mais à l'époque, il a beaucoup divisé.
À l'époque, il divisait. Alors, il y avait les parents, c'est hors de question, de toute façon. Et c'est là qu'on a commencé à avoir le discours... Les écrans, c'est mauvais. Les jeux vidéo, c'est mauvais, etc.
Addiction. Bon,
voilà. Et de l'autre côté, on avait les parents où, effectivement, il y avait des gosses qui jouaient à Fortnite depuis 5 ans, 6 ans. Et on se disait, en ligne, c'est un peu bizarre quand même, sans accompagnement. À partir du moment où nous, on a vu qu'il n'y avait pas de violence réelle, ni de danger réel... par rapport à l'interaction avec les autres, on a autorisé Fortnite. Elle y jouait en plus avec une copine à la base, qui était un peu plus âgée que toi.
Oui.
Du coup, chez Ona, elle avait des copains avec qui elle jouait, qu'elle connaissait de l'école primaire.
Mais je ne les connaissais pas particulièrement, je n'en avais pratiquement jamais parlé, à part à Mathéo. Et du coup, il m'a mis dans son groupe d'amis, c'était que des garçons, pratiquement, par contre. Mais ce n'est pas grave, mais c'est juste que les filles jouaient quand même moins.
Il voulait faire une team Fortnite.
Et du coup, je pouvais leur parler, alors même si je les avais pas particulièrement connus à l'école primaire, je les connaissais quand même de loin, donc je savais que c'était des gens, pas méchants, je savais que c'était des enfants, quoi, donc je pouvais leur parler, et ça me permettait d'avoir un contact quand même, parce que j'avais pas de téléphone, enfin si j'ai eu un téléphone à ce moment-là, le téléphone j'utilisais pas beaucoup en fait.
Mais tu l'utilisais pas beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de parents qui trouvaient que c'était trop jeune, l'école primaire, même le CM2 pour avoir un téléphone portable, nous... on avait convenu de lui offrir pour son anniversaire parce que c'était avant le collège et que du coup voilà, pour le collège on pensait que c'était pas mal qu'elle ait un téléphone pour rester en contact avec ses amis, faire les trajets maison, collège, etc. Finalement ton téléphone il te servait pas trop pour communiquer avec tes copains, copines, à part avec Emma.
Ah oui, Emma, mais son téléphone n'était pas non plus... Le réseau, ça se coupait à 20h ou 22h, un truc comme ça.
Ah oui, alors nous, on n'a pas de règles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de règles pour ça. C'est-à-dire que nous, le Wi-Fi, il ne se coupe pas à 20h.
Non,
mais une fois de plus, alors voilà, on avait des parents qui disaient « Oui, mais bon, parce qu'ils sont sur leur jeu vidéo, tu dis à table, et puis là, c'est une crise, parce qu'il faut arrêter de jouer et tout. » Mais en fait, nous, on prévenait, quoi. En fait, on disait « Chez Ona, attention, ne relance pas de partie, parce que d'ici 15-20 minutes, on va manger, en fait. » Il n'y a jamais eu de crise. Après, quand on disait à table, elle éteignait et elle venait manger, en fait. Mais en tant qu'adulte, si je suis dans une partie, je suis super frustrée si on me coupe dans ma partie, en fait. Voilà. Non, mais je veux dire. Après, je pense, c'est une... enfin, pour moi, voilà, l'ado, c'est une personne. Enfin, l'enfant, c'est une personne. Hein. Et du coup, bah, ce que j'aimerais pas trop qu'on me fasse vivre, bah, j'essaie de pas lui faire vivre non plus.
Vous semblez pas tributaire non plus de, je dirais, le, des représentations sociales, parce qu'il y en a d'autres parents qui ont des enfants, qui ont des discours sur le numérique, sur les écrans, pas de téléphone avant tel âge.
Ça a été une question quand elle était toute petite.
De quoi ?
Bah, à quel âge, on s'est quand même posé cette question-là, à quel âge, finalement, elle peut avoir un écran, tout ça, c'est quand même...
Ouais.
Ouais. Je suis pas sûr qu'on
ne s'est pas vraiment conformé aux conseils qu'on a pu lire.
Je suis d'accord, mais on en a discuté quand même.
Oui, on en a discuté.
Oui, c'est pas tombé comme ça.
Non.
Non, mais je me rappelle, on en a discuté pour les premiers films, par exemple, les premiers dessins animés qu'elle a pu regarder.
Dumbo.
Ben non, alors moi je dis. J'ai une copine j'ai une copine, elle me dit, mais tu vas-y, Dumbo, c'est bien, c'est safe, quoi. Parce que moi je gardais un souvenir de Bambi, tout ça. Donc la petite, premier Disney qu'elle a vu, c'est Dumbo. Elle était en larmes, du début du film à la fin du film. J'ai détesté mon amie pour ça. Je l'ai détesté. Voilà. Donc après, je me suis dit, bah, on va peut-être plus trop écouter les conseils, en fait. Si, alors on utilise... Il y a des sites à partir de quel âge, etc. Je sais que ça, par contre, je me suis renseignée pour certains films... parce que justement, je suis très méfiante. On nous a déjà dit, oh, vous devriez regarder tel film, c'est super. Et en fait, c'est une histoire atroce. Enfin voilà. Donc maintenant, je demande plus conseil sur, oh, vous avez vu tel film, ça vous plaît.
Je crois qu'il y a un site.
Ouais, c'est à partir de quel âge.
Il y en a plusieurs, mais il y en a un, je crois, qui est géré par Upopi. Alors bon, c'est un peu tout ce qui est agence, ouais. L'image, culture, ouais. Etc. Qui référence. Des films, mais aussi des courts-métrages.
Voilà.
Il me semble qu'il y a vraiment des listes avec des gens qui font une analyse.
Exactement. Il y a des... Moi, c'est ce genre de site, alors je ne sais plus le nom du site, mais où effectivement, ils disent à partir de tel âge pour telle et telle raison, tel âge pour telle et telle raison, quels sont les sujets abordés, quelles sont les scènes qui peuvent être choquantes, etc. Et ça nous a aidé à choisir des films, parce que quand même, c'est assez naturel, mais on se pose quand même quelques questions. Non, on n'y va pas... finalement... ça dépend de la sensibilité de l'enfant, ça dépend. Et nous, on essaye d'être très à l'écoute de ça. Bon, on s'est loupé, hein, quand même, quelquefois. Tes grands-parents ont essayé de te montrer les Gremlins. Quand t'étais plus petite, c'est parti complètement en sucette, elle a eu très très peur. Moi, je pense, quelques mois plus tard, j'ai dit, ah bah tiens, on pourrait regarder Le Masque de Zorro, c'est rigolo, Le Masque de Zorro. Le début est d'une violence incroyable. On a été obligé d'arrêter. Enfin,
on
voilà.
Oublie, en fait.
Oui,
c'est ça.
Nous on se rappelle juste bon, Zorro, machin, mais en fait...
Pas du tout. Donc, on a arrêté tout de suite le film. On a dit, bon, OK, c'est bon, ça, voilà.
C'est comme les voisins, ils avaient essayé de me montrer... Les... Enfin, on avait... c'était Halloween, du coup.
Une soirée Halloween, il y avait des extraits de films d'horreur.
Non, des
bandes annonces de films d'horreur.
J'ai fait des cauchemars après.
Oui, c'était Freddy et tout ça. Là. Après, je pense que les films d'horreur années 80... nous, ça nous faisait rire parce qu'en fait c'était
ça dépendait desquels. L'exorciste,
c'est un peu différent.
Brendan, ça nous faisait rire.
Voilà. Brendan, Freddy,
le blob.
Oh, c'est quand même, c'était quand même. Il y avait un côté à la fois horreur mais à la fois humoristique.
Evil Dead.
Oh là là, oui, énorme.
mais il faut être plus âgé. Enfin, là, très clairement, il faut être capable de...
Ça dépend. Chionel a des amis de son âge qui peuvent regarder ce genre de film et ça passe, en fait. Par contre, Chionel va pouvoir regarder certains films et si ses amis le regardent, ça va les stresser. En fait, chacun sa sensibilité. C'est ça qui est compliqué, je trouve. Et du coup, c'est ce que je trouve pénible dans le discours moralisateur et normatif des médias par rapport aux jeux vidéo, etc. Enfin, nous, on a une enfant qui a des soucis d'entrée en ce moment, soit et tout, mais qui a des super bons résultats scolaires et qu'on ne bride pas sur les jeux vidéo et qui, en même temps, quand elle a des copains qui viennent à la maison ou qu'elle va chez des copains, elle est super ouverte, etc. Elle adore les jeux de société sur table.
Les échecs,
tout ça. Enfin, voilà, mais
moi, je trouve qu'il n'y a pas de rapport entre les résultats, les jeux vidéo ou même les films. J'avais un copain, quand il avait un mauvais résultat, bah, il se faisait priver de jeux vidéo pendant 2 semaines. Mais je trouve qu'il n'y a pas franchement de rapport. Enfin, si les parents mettent des bonnes limites, ou, enfin, ils apprennent quand ils sont aux enfants à se gérer tout seul, enfin, pas à exagérer des trucs. Ça vient tout seul, quoi. C'est...
Mais nous, on s'est toujours dit que de toute façon, là où il y avait de la privation, il y avait de l'envie, en fait. Hein, donc, c'était contre-productif, quelque part. Si on dit, tiens, t'as pas été sage, tu seras privé de télé. Ah, la télé, ça devient un truc phénoménal, en fait. Hein, parce que c'est le truc dont on me prive. Donc, nous, on n'a jamais fait ça, en fait. Nous, ce qu'on aurait pu faire, c'est la priver de livres.
Mais là, c'était contre notre...
Mais voilà.
Oui, c'est ça, notre culture. Ouais. Là, il y a un non-sens.
Il y a un non-sens. C'était pas une collègue qui t'avait dit ça, mais il faut commencer à la punir dès maintenant.
Elle avait 18 mois. Oui, mais il faut la punir. Pourquoi?
Parce que
autrement, elle ne comprendra pas. Et j'avais dit, non, en fait, c'est pas dans ma conception de l'éducation. On communique beaucoup sur les valeurs de respect, de se respecter les uns les autres, mais dans les deux sens, hein, je veux dire.
Oui, ça donne parfois des discussions... un peu mouvementé, mais intéressant.
Si l'enfant sait ce qu'est le respect, je pense, du coup, il n'y aura pas vraiment de problème avec les jeux vidéo, tout ça, parce que il saura respecter les autres déjà dans les jeux vidéo, et puis quand ses parents lui demanderont d'aller à table, s'ils le préviennent avant, l'enfant, il n'y aura pas de problème. Puis, c'est pas les jeux vidéo qui vont faire, par exemple, qu'un enfant n'est pas poli à l'école avec un professeur ou quelque chose comme ça, ça va être plus l'éducation, je pense, que le jeu vidéo. Comme les gens qui disent que le jeu vidéo engendre la violence, le jeu vidéo engendre la violence s'il n'est pas bridé, s'il n'est pas expliqué, s'il n'est pas accompagné. Enfin, je suis même pas sûre que ça fasse ça, mais après... Enfin, si l'enfant commence à reproduire ce qu'il voit dans un jeu vidéo, c'est qu'il y a un problème d'éducation, quand même, à la base.
Ou d'équilibre intérieur.
Ou d'équilibre intérieur, mais souvent par l'éducation.
J'ai entendu qu'il y avait le téléphone est arrivé, donc c'était autour du confinement. Du coup, ton usage du téléphone, c'est quoi?
Je regarde souvent des vidéos, des fois j'écoute de la musique. Enfin, des fois je communique aussi avec des amis, bien sûr. Mais je suis pas très douée par communiquer par message.
Ouais.
C'est pas mon truc préféré.
T'as des applis que tu utilises plus souvent que d'autres?
YouTube.
Et pour les communications, t'es plus Snapchat, c'est
oui.
Ça
Snap. Plutôt YouTube, quoi.
Oui.
Qui est considéré comme un réseau social.
Oui, mais j'écris jamais de commentaires ou de trucs comme ça, je trouve que c'est inutile.
Donc par contre, tu délis ?
Des fois, et ça me... Des fois, la stupidité est désespérante.
Alors bon, après, c'est peut-être un peu influencé par le discours qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est vrai que nous, tout ce qui est immédiateté de la réaction et... Enfin, n'importe quelle publication peut générer des mêlées de combat de boxe.
Oui, je m'étais abonnée à un compte. Enfin, je suis abonnée à un compte. C'est un mec qui réagit aux commentaires, mais complètement stupide, et qui est à chaque fois en mode... C'est juste drôle de voir les réactions sur la stupidité, parce que le mec, il parle, je sais pas, de quelque chose, genre l'eau est bleue ou un truc comme ça. C'est totalement stupide. Et après, le mec, il sort une théorie sur le fait que la Terre est plate, quoi. C'est assez désespérant, mais assez drôle en même temps.
Oui, j'avais vu une pub comme ça pour une école de gaming, justement, de e-game, de e-sport ou je ne sais pas quoi. Et là, les gens commencent à mettre des commentaires en tout. Ah oui, le danger des écrans, etc. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible.
C'est comme la personne.
Vous n'avez pas autre chose à faire de votre vie, en fait.
C'est comme une personne, quelqu'un avait fait une pub sur les jambons, enfin... Je sais pas, végétarien, enfin les lardons végétariens.
Ouais.
Il y a tout le monde qui était en mode la fin de la France. C'est pas ma France, ça. Moi je mange du cochon. Là j'étais en mode d'accord.
T'es abonné à des contributeurs, à des influenceurs, des créateurs de contenu?
Des fois je regarde des vidéos, c'est des best-of de vidéos. C'est-à-dire qu'en fait les gens là-bas c'est des streamers et ils compilent les streams en 20 minutes. Comme ça c'est plus que les moments drôles. Et des fois, j'aime bien regarder aussi un peu de l'ASMR de temps en temps, mais seulement les...
C'est quoi ça?
C'est des trucs relaxants, enfin, c'est pas très...
ASMR, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est les gens qui font des bruits comme ça. Mais moi, je regarde pas juste les bruits, je regarde quand il y a des roleplay derrière un peu quand même. Voilà.
On découvre des choses parce que là, on
sait
pas. Et c'est qui du coup les influenceurs ou les youtubeurs
Moi, je regarde des... Wanky Studio. Non. Ok, personne.
Pas. Non, mais c'est normal, on est vieux.
La geekothèque de l'invité. Marion Azapéry, psychologue clinicienne et chercheure, s'invite dans l'intimité vidéoludique d'une personne qui vous dévoile son jeu vidéo ou sa série préférée.
Bonjour Mathéo, bienvenue dans la Geekothèque de l'invité.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mathéo du compte TikTok La Politique de Maths. Mathéo, tu as 18 ans, tu vas rentrer en première année à l'université en histoire. Sur TikTok, tu es militant politique et tu décryptes cette actualité politique. Et tu as plus de 61 000 abonnés. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce dont il s'agit ?
Au départ, c'était plus quelque chose d'assez, enfin, qui était très, très spontané. Donc, je l'ai pas fait en me disant que ça allait forcément marcher. Et juste, je faisais des vidéos en fonction des sons ou des choses qui pouvaient être mises en avant sur l'application par rapport à l'actualité politique. Et après, au fur et à mesure, avec l'arrivée de l'élection présidentielle, j'ai commencé à... Je présentais les programmes des candidats. Donc ça avait très bien marché. Et ça m'a permis de rencontrer même des politiciens, de faire des interviews. Et le but, au départ, c'était... parce que sur TikTok, il y avait beaucoup de personnalités d'extrême droite qui y étaient. C'était, entre guillemets, de ne pas vouloir laisser la place à qu'un seul bord politique, mais pouvoir contrer, entre guillemets, ça et proposer quelque chose de différent.
Et alors, qui suit ce compte TikTok ? Est-ce que tu as une visibilité sur ça ?
Oui, je vois à peu près, c'est des gens qui ont entre 16 et 20 ans. Et mon compte TikTok, c'est majoritairement des femmes, très largement.
Et alors, toi, quel est ton objectif en faisant ce compte-là par rapport aux personnes ? Est-ce que tu cherches justement à informer, à codifier des points de vue ?
Je pense que c'est un tout, parce que je fais différentes choses. Il y a à la fois de donner mon avis ou de mettre en avant une actualité politique ou une autre, et en même temps comme j'avais fait pendant la présidentielle, présenter un programme en essayant d'être le plus neutre possible ou parler de sujets qui vont me plaire pour que d'autres personnes puissent s'y reconnaître.
D'accord, parce que souvent on entend parler des influenceurs et quand on dit influenceur, on entend influence. Donc est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu souhaites toi influencer les autres?
Si je le souhaite, je sais pas vraiment, mais en tout cas, je sais que pendant la présidentielle, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient que, en ayant vu mes vidéos, mais même les vidéos d'autres créateurs, ça les avait poussés à voter parce qu'ils s'étaient reconnus dans quelques idées et du coup, au final, ils étaient allés au bureau de vote alors qu'au départ, ils l'avaient pas forcément prévu.
Justement, pourquoi TikTok, pourquoi pas un autre réseau?
Parce que sur TikTok, ce qui est, je trouve très intéressant, c'est qu'on a du coup le fil d'actualité. Donc, toutes les vidéos qui défilent sont pas forcément des personnes qu'on suit. Du coup, particulièrement pour le sujet dont je parle, donc la politique, ça me permet de parfois tomber dans le fil d'actualité de personnes qui s'y intéressent pas du tout, ils ont jamais, par exemple, il y en a certains, ils me disaient qu'ils avaient jamais suivi l'actualité ou vers un journal. Mais du coup, ils sont tombés sur une de mes vidéos, ils se sont dit que ça pouvait être intéressant et c'est ça que j'aime bien. Et c'est pour ça que même les comptes que j'ai que je conseille, donc dont par exemple le prof d'histoire, je pense que sur d'autres applications, il serait pas forcément mis autant en avant. C'est particulièrement parce que ça arrive sans qu'on ait besoin de vraiment chercher et de se concentrer sur ce sujet.
Alors, est-ce que tu pourrais me préciser ce qu'il y a dans la geekothèque d'un créateur de contenu qui s'intéresse à la politique?
Au niveau musical, par rapport à la politique, moi, je sais que ça a beaucoup d'importance. J'écoute beaucoup les paroles des musiques. Donc, par exemple, une des musiques qui est sortie sur la dernière année, je crois, les deux dernières années, il y a L'odeur de l'essence d'Orelsan, où il parle exclusivement de politique. Mais en effet, dans la musique, il y a beaucoup... j'essaie de réfléchir à d'autres... notre musique engagée, enfin même Nekfeu dans ses textes est très engagé, et il y a un tas d'artistes qui vont s'engager sur des points politiques. Après, sur les séries et les films, en série, j'aime beaucoup par exemple Baron Noir, oui. Qui suit le Baron Noir entre guillemets du Parti Socialiste, c'est avec Cadmérade, je crois. Et au niveau des films, j'essaie de réfléchir, mais si, enfin les films engagés, j'aime beaucoup. Par exemple, il y a Triangle of Sadness que j'avais beaucoup apprécié, donc qui est une satire sur la société, la différence entre riche et pauvre, et voilà par rapport à la politique.
Est-ce que tu es sensible justement à d'autres TikTokers ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'inspirent ?
Oui, déjà, grâce à TikTok, j'avais pu rencontrer d'autres personnes qui faisaient aussi des vidéos sur la politique, qui étaient du même bord, donc même eux, entre guillemets, on s'inspire chacun de ce qu'on peut faire. Et après, il y a des choses qui... Enfin, moi, je suis beaucoup de choses sur TikTok, donc il va y avoir des comptes qui parlent cinéma, des comptes qui parlent d'art, ou parfois des comptes où il n'y a pas vraiment de sujet. Mais je suis beaucoup de TikTokers, je crois que j'ai plus de 1500 abonnements.
Si tu devais conseiller, par exemple, 3 comptes pour que les parents aillent jeter un œil et se rendent compte qu'il y a aussi des éléments culturels ou d'information chez les TikTokers, qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ce top 3?
Je dirais que ce serait Yann Toucourt, qui est un prof d'histoire qui fait des vidéos sur TikTok. Donc, soit il va faire de la vérification des faits, donc de d'autres vidéos de personnes, et il va montrer, par exemple, que tel propos est faux, que histoire, enfin, par rapport à l'histoire, ou sinon il va juste amener des sujets. Je crois qu'à un moment même, il faisait des, je sais plus si c'était des chansons ou, en tout cas, il racontait des histoires en lien, je crois, avec le brevet, pour que les personnes puissent apprendre. Donc, il est vraiment très intéressant. Après, il y a, au niveau politique, il y a Emo Kage, qui fait un contenu engagé au niveau du féminisme particulièrement, et qui est très intéressant. Son contenu est vraiment intéressant. Et après, il y a Athéna Sol, qui est une prof de français, cette fois, et qui fait souvent, elle parle de mots, elle ramène à ce que... Enfin, je sais pas comment on peut... Je crois que c'est un terme précis, mais elle explique d'où viennent ces mots, en gros. Et d'une manière assez... Voilà, assez drôle, voilà, l'étymologie, est d'une manière assez drôle. Donc, c'est très, je trouve ça très ludique, en tout cas.
Si tu devais donner un petit mot de la fin pour les parents, justement, par rapport à la question de TikTok, des créateurs de contenu, des influenceurs, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire?
Je dirais que TikTok, ça peut être utilisé comme une bonne plateforme, mais c'est compliqué, je pense, pour les très jeunes, en tout cas. Et surtout, ça doit être utilisé, en tout cas, je trouve, surtout au niveau des enfants, à très faible quantité. Enfin, il y a énormément de... Je crois que même en France, on se pose la question au niveau de comment ça peut rendre addict. Et même moi, je sens que c'est très simple d'y être addict. Donc, de faire attention et peut-être de le mettre à petite dose et de vraiment vérifier quel contenu la personne peut regarder, le jeune surtout.
Oui, alors... Toi, comment tu fais attention justement pour pas être trop accroché à ton téléphone?
Je dois avouer que c'est compliqué. Je sais que sur mon téléphone, j'ai une limite de temps. Après, souvent, comme je connais le code, je la dépasse. Mais c'est un sujet, enfin que j'essaye. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de changer un peu dans ma vie, parce que je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps. Sur TikTok, en fait, il y a une certaine forme de... Dès qu'en fait, je m'ennuie, c'est très automatique d'ouvrir l'application et juste de défiler pendant des heures.
Et tu as l'impression, toi, que tes parents t'avaient justement appris à maîtriser un petit peu ça ou à limiter?
Oui, mais comme TikTok n'existait pas... Je trouve que TikTok est vraiment particulier parce qu'avant, j'avais tous les autres réseaux sociaux depuis que j'ai 11 ans. Enfin, à partir du collège, j'y ai le droit. Mais bon, j'y passais un peu de temps, mais pas tant que ça. Et c'est vraiment depuis l'arrivée de TikTok et du fait de scroller comme ça avec un flux de vidéos infini, c'est très compliqué de le gérer. Et comme ça vient d'arriver...
Ok, bah merci beaucoup Mathéo. Donc on recommande ce compte, La Politique de Math, et on le mettra en lien sur le site.
Merci.
Un jeu vidéo en 180 secondes. Retrouvez Bruno Berthier et Antoine Barcy, deux psychologues cliniciens, qui relève le défi de vous faire découvrir et de décrypter un jeu vidéo en 1 minute 30.
Salut Bruno! Oh, toi, le thème d'aujourd'hui te convient parfaitement, et je sais de quel jeu populaire tu vas nous parler. Toi qui utilises les jeux vidéo dans notre cabinet, il fait partie de ton attirail thérapeutique.
Hello Antoine, effectivement, aujourd'hui j'ai envie de présenter un jeu dont tout le monde parle, les plus jeunes comme les plus âgés comme nous. Il s'agit de Minecraft. C'est un jeu populaire qui s'est fait une place parmi les jeux majeurs et qui pourtant ne date pas d'hier. Sorti officiel novembre 2011 et présent sur toutes les plateformes, PC et console. Son graphisme cubique et les immenses possibilités de création font qu'on peut le considérer comme une gigantesque boîte de Lego numérique.
Tu nous expliques ce choix de Minecraft dans cet épisode sur les YouTubers ?
Eh bien parce que pour beaucoup de joueurs, moi y compris, les YouTubers ont été la porte d'entrée pour apprendre Minecraft. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, je regardais le midi un épisode du guide pour bien débuter Minecraft de Fanta, et le soir, je pratiquais ce que j'avais appris le midi. Un autre exemple marquant. C'est arrivé plusieurs fois qu'on discute de Minecraft avec un patient et qu'au moment de le faire jouer au cabinet, ils me disent « mais je n'y ai jamais joué ».
Mais pourquoi ce n'est pas qu'un phénomène de mode ?
Minecraft sollicite le joueur sur au moins trois points majeurs, l'apprentissage, la découverte et la créativité. Pour que ces trois éléments s'articulent bien entre eux, il est préférable que le joueur soit réceptif, donc plutôt dans le calme. Ça peut aussi être un défouloir, mais c'est à un moment précis, court dans le temps.
Justement, tu peux nous expliquer comment on fait pour jouer ? Je crois que beaucoup de parents nous écoutent.
Il y a beaucoup de manières de jouer grâce à l'inventivité des joueurs, comme les Bedwars, mais je vais rester sur les basiques. Le mode survie et le mode créatif. Le mode créatif donne la possibilité d'avoir accès à tous les éléments du jeu, comme d'avoir toutes les boîtes de Lego à sa disposition. Seule limite, sa propre créativité. Le mode survie, quant à lui, oblige le joueur à faire attention à lui dans l'évitement des dangers, chute, lave, noyade, monstre, et à gérer ses besoins comme la faim. Dans ce mode, le joueur part de rien et doit tout construire, notamment un abri pour être en sécurité la première nuit. Ensuite, il lui faudra explorer le monde dans lequel il est apparu pour récolter diverses matières premières, pour se confectionner ses premiers outils, les améliorer et organiser ses constructions.
Et toi, tu l'utilises en séance ?
Énormément ! Pour beaucoup de jeunes patients, c'est un premier contact avec le clavier et la souris d'un PC. C'est un moment de liberté et de découverte. Affronter ses peurs en étant accompagné, l'occasion de montrer ce qu'on a appris dans une vidéo et être fier de soi. Il y a tellement de choses à apprendre dans Minecraft.
Alors, je vais terminer, si tu me le permets, en remerciant Minecraft d'avoir créé cet univers d'Ibac à sable dans lequel on peut devenir le créateur de notre monde et d'avoir pris à revers l'univers du jeu vidéo, axé sur le graphisme toujours plus de qualité. Pour nous rappeler la base du jeu, l'importance du jeu, c'est s'amuser. Les graphismes sont secondaires. N'oubliez pas qu'avec du moche, enfin du pixelisé ici, on peut faire du magnifique. Croyez en vous et let's go.
La FAQ des parents. Milan Hung, psychologue clinicien, répond à vos questions en vous apportant des clés pour mieux comprendre le numérique.
Ma fille regarde beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux et sur Internet. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète de l'influence que ça peut avoir sur elle ?
Je pense que c'est inévitable que nos adolescents et adolescentes s'émancipent et soient influencés par d'autres personnes en dehors de la sphère familiale. C'est d'ailleurs très bon signe. Cela prouve que votre enfant se sent suffisamment en sécurité pour prendre de la distance avec le cocon familial. Après tout, vos enfants viennent de grandir plus de 10 ans en s'appuyant sur vous, les parents, et ça, c'est pas rien. Et je ne pense pas que vous souhaitez qu'ils restent dépendants de vous et de votre avis sur tous les aspects de la vie en général. Cela dit, peut-être que la question se situe autour d'une inquiétude marquée par des mauvaises influences. Là, le sujet devient plus compliqué, parce que c'est très subjectif et différent selon chaque famille. D'abord, gardons à l'esprit que nous ne pouvons et ne devons pas chercher à maîtriser et contrôler les pensées et les points de vue de nos enfants. Le faire aurait deux destins. Soit votre enfant prend encore plus de distance avec vous et va justement s'émanciper en votre absence, sans compter sur votre appui et votre soutien. Cela va indéniablement créer des frictions dans vos relations parents-enfants, qu'il faudra réparer. Soit votre enfant finit par être dominé par l'injonction familiale et va retarder et ou renoncer à sa propre émancipation subjective. Et ça, ce n'est jamais souhaitable, que votre enfant interrompe son développement psycho-affectif. Par contre, les parents sont aussi source d'influences positives, constructives et rassurantes. Dans le cas d'influences potentiellement radicalisantes, c'est toute la subtilité du travail du parent que de trouver cette posture ni trop acceptante, ni trop rejetante. Mais ça, c'est un peu le résumé de l'adolescence. À la fois, les parents doivent pouvoir encourager et féliciter leur enfant d'avoir eu la confiance et l'assurance personnelle d'être allé chercher ses propres informations. Et en même temps, il faut pouvoir avertir, discuter et débattre sur le caractère ni tout noir ni tout blanc de la vie. Et que sur les réseaux sociaux et les communautés en ligne, un des principes primordiaux est de préserver notre esprit critique. Après tout, nous serions bien tentés de se laisser influencer par une autre personne vraisemblablement importante, imposante, réputée, parce qu'elle aurait beaucoup de followers, de subscribers, etc. Et que bon, si elle est reconnue sur l'espace virtuel, alors elle aurait la légitimité de définir à notre place si ce sujet doit être pensé de cette façon ou non. Mais retenons bien que tout partage en ligne par une autre personne, entreprise, groupe, institution, influenceur, influenceuse, etc., a toujours un but, Ce podcast aussi partage plein de billes d'informations et d'éducation. Et ce podcast aussi a un but, une influence. Généralement, on veut vous vendre des produits, des packs formation, on vous donne des informations gratuites en échange de vos données personnelles qui seront probablement revendues. Il y a toujours une transaction, un troc, dans les contenus d'influence retrouvés sur les réseaux sociaux. Mais cette transaction peut très souvent aussi être très utile, en apprenant de nouvelles choses, en nous identifiant à des faits que nous n'étions pas au courant. L'influence des réseaux sociaux sert aussi à nous informer. Parfois trop d'ailleurs, quand nous nous laissons emporter par les fils d'actualité. D'où l'importance de savoir cibler les informations qui nous intéressent plutôt que d'être nous-mêmes cibles de suggestions de contenu. Bref, quand nous sommes adultes et que nous avons des notions d'éducation numérique, nous savons être avertis et prendre du recul. Mais quand on est jeune, qu'on est en train de construire cet appareil d'esprit critique encore fragile, et notamment avec l'effet de groupe, on peut en perdre l'équilibre. Et on se surprend à suivre la masse sans être forcément en accord avec ses croyances. Bref, quand on est jeune, on n'est pas aussi critique qu'on aimerait l'être. Et c'est toute l'importance de préserver un lien de confiance et un dialogue ouvert, honnête et assez transparent pour pouvoir échanger et être une source d'influence valorisante, critique et mesurée pour nos enfants. Pour ça, les adultes doivent rester un minimum informés, éduqués, afin que cette transaction soit intéressante pour votre adolescent. Sinon, il finira par se désabonner de vous. Et ça, c'est une situation très désagréable pour le coup. Pour conclure, pas la peine d'avoir peur si vous avez confiance en votre relation avec votre ado. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour savoir ce que vous pouvez faire pour renouer du dialogue avec votre adolescent.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. Toute l'équipe vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures audio-numériques. Vous avez des idées ou des suggestions? N'hésitez pas à nous contacter sur causerie@open-asso.org ou via les réseaux sociaux. À bientôt !